Voilà.
C'est pas du vin. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, plus d'un million d'espèces sont menacées d'extinction si nous ne changeons pas la façon dont nous traitons la vie sauvage. Cet avertissement lancé en mai 2019 par les scientifiques de l'IPBES, le groupe d'experts de la biodiversité de l'ONU, avait jusqu'ici résonné dans le vide. Mais la semaine dernière, il y a eu un sursaut. Les représentants des gouvernements de plus de 180 pays réunis pour la 19e conférence de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, la CITES, semble enfin avoir pris conscience de l'ampleur du défi à relever. Des espèces de requins, de tortues, de grenouilles sont désormais mieux protégées. Nous allons vous expliquer tout cela avec nos invités. Mais en parallèle, en pleine négociation sur les règles de contrôle des flottes de pêche européennes au large des côtes africaines, un conflit d'intérêts dérange et ce sont les quotas de pêche de thon qui sont en jeu. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Charlotte Nittard.
Bonjour.
Vous êtes la porte-parole de l'association Robin des Bois qui scrute de près les actes de braconnage et de contrebande d'espèces animales menacées au niveau international. Tous les trimestres, vous publiez une revue qui s'appelle « À la trace » qui retrace ces trafics. C'est assez terrifiant. Je vous invite à aller la lire sur le site internet de Robin des Bois. Et à la lecture de ce bulletin, on se rend compte de l'ampleur de ce trafic. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques chiffres ?
En chiffres, alors bon, c'est des estimations à la louche, bien entendu, mais on estime qu'en termes de valeur, c'est entre 7 et 23 milliards de dollars par an de trafic donc lié au braconnage et à la contrebande d'espèces menacées, à la fois terrestres, maritimes, eau douce, et puis de la faune, de la flore aussi, également beaucoup de bois. Ce qu'on sait, c'est que c'est une économie parallèle qui aussi est un facteur de déstabilisation, qui alimente les milices, qui facilite le blanchiment d'argent, qui est un facteur aussi de pillage, de pauvreté et puis de disparition des espèces. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a aucun continent qui est épargné, parce qu'on parle souvent effectivement du pillage en Afrique ou en Asie, mais il y en a aussi en Europe, du braconnage et de la contrebande. Ce qu'on voit aussi, c'est que toutes les classes sociales sont touchées et participent à ce trafic, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des revenus tout à fait corrects et qui en veulent toujours plus et qui donc mettent le doigt dans ces contrebandes, que les peines infligées sont inégales suivant les continents et l'application des sanctions des tribunaux aussi sont inégales. Des fois, il y a des remises en liberté sous caution malgré des peines assez dures. Donc voilà, un panorama assez sombre, mais qui cependant aussi est contrebalancé par le fait que, encore une fois, partout dans le monde, il y a des gens qui se battent et qui, quel que soit leur niveau de vie et la dangerosité de l'application de leurs convictions et de la bataille qu'ils mènent, se démènent pour protéger la faune, la flore, le bien commun, le patrimoine commun et se battent contre ce capitalisme de l'extinction qui fait que quelques-uns s'approprient la nature pour s'enrichir.
Alors, dans un rapport publié en juin, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IBES, c'est toujours un peu compliqué à dire, mais c'est son nom, c'est comme ça, a montré que le commerce mondial de la flore et de la faune s'est considérablement développé au cours des 40 dernières années.
Oui, ça s'est développé, parce qu'on est de plus en plus nombreux. Il y a des problèmes aussi de gouvernance. Dans certains pays, ça fait qu'il y a de plus en plus de corruption, en tout cas la lutte anticorruption pas à la hauteur. Il y a eu une pause, on va dire, forcée avec le Covid, puisque il y a beaucoup de ces trafics qui font l'objet de transactions internationales. Et là, étant donné qu'il y avait une rupture, notamment des routes aériennes et maritimes, il y a eu une pause. Cependant, on constate maintenant qu'il y a eu des stocks, finalement, qui ont été faits pendant ce temps-là, et que là, il y a un déstockage des matières qui ne périssent pas, comme l'ivoire, la corne ou les écailles, par exemple. Et puis aussi, pendant le le Covid, il y a eu une ruée vers les nouveaux animaux de compagnie, et notamment des oiseaux chanteurs, par exemple, parce que les gens qui ne pouvaient plus sortir voulaient finalement faire rentrer à la maison un peu de nature. Et ça, c'est une des grandes victoires de cette CITES qui s'est passée au Panama, dont vous avez parlé. C'est qu'il y a deux espèces d'oiseaux chanteurs, le chama à croupion blanc et le bulbule à tête jaune, qui sont dorénavant beaucoup plus protégés par cette convention internationale.
Oui, parce qu'au début de cette émission, j'ai parlé de bonnes nouvelles quand
oui.
même. Donc...
Il y en a.
Malgré ce tableau assez dramatique, vous revenez donc de Panama City, vous l'évoquiez, où s'est déroulée donc cette 19e conférence de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le rôle de cette convention ratifiée par plus de 180 pays ?
Oui, bah écoutez, elle est entrée en vigueur en 1975 et son rôle, c'est de contrôler ou d'interdire le commerce international des espèces menacées. Alors bon, déjà, il y a quand même un paradoxe parce qu'on se dit mais espèces menacées, donc du coup, il ne devrait pas y avoir de commerce. Mais étant donné qu'il y en a quand même, le but, c'est de faire en sorte que les espèces, malgré le commerce, ne soient pas, ne s'éteignent pas à l'état sauvage, ou alors si vraiment il y a un risque d'extinction imminent, que le commerce soit totalement interdit. Donc ça marche avec deux annexes, enfin trois. Une, c'est l'annexe 3 qui est au niveau national, donc on n'en parle pas lors des grandes réunions internationales. Ça permet d'aider, enfin de demander, c'est un pays qui appelle à la collaboration internationale. L'annexe 2, elle est très importante, ça permet un meilleur contrôle du commerce, c'est-à-dire que concrètement, vous allez avoir une espèce de requin, par exemple, et qui est inscrite à l'annexe 2, et normalement, pour en faire des transactions internationales, il vous faut un permis d'exportation du pays d'où c'est exporté, un permis d'importation du pays qui est importateur et avec éventuellement un système complémentaire de quotas. Donc ce qui permet un meilleur contrôle, d'éviter que des animaux qui sont capturés illégalement puissent rentrer dans le commerce international. Parce que normalement il n'y a pas de permis si au départ ça n'a pas été capturé d'une manière légale. Donc ça permet aussi d'avoir une meilleure idée du volume global des échanges commerciaux. Parce que sinon il y a quand même des incertitudes sur... exactement le nombre d'animaux qui sont tués ou piégés. Et puis, il y a l'annexe 1 qui, elle, interdit le commerce international. Et si la CITES fonctionne, contrairement à beaucoup d'autres conventions internationales où c'est quand même beaucoup de déclaratifs, c'est parce qu'il y a un système de sanctions. C'est-à-dire qu'un pays qui ne respecte pas à la fois les procédures pour émettre les permis d'importation, d'exportation, qui ne respecte pas ses obligations de rapportage, de synthèse, à la communauté internationale de comment ça se passe dans son pays, de l'application des lois, etc., peut faire l'objet d'une suspension du commerce. Ce qui veut dire qu'aucun permis ne peut être accepté par les 180 autres pays en provenance de ce pays-là.
C'est déjà arrivé ?
C'est arrivé, par exemple, avec Madagascar. C'est un des derniers, mais ça arrive régulièrement. Alors, ça pourrait arriver plus souvent, certes, mais ça arrive. Et ça, pour un pays, c'est extrêmement pénalisant, puisque une espèce inscrite en annexe 2... le commerce reste autorisé même s'il est strictement contrôlé et peut rapporter beaucoup d'argent.
Alors, globalement, cette CITES se réunit tous les 3 ans. Oui. Elle offre déjà une protection à plus de 38 000 espèces dans le monde. Et là, le bilan est plutôt positif.
Alors,
on va détailler pour les avancées et les reculs, mais globalement...
Globalement, il est très positif, en particulier pour les forêts et pour les reptiles, et en particulier les tortues, et puis pour les requins et des poissons ornementaux, dont on parle assez peu.
Alors, intéressons-nous d'abord aux espèces terrestres. Il y a plusieurs pays d'Afrique, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la République centrafricaine, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, qui réclamaient la protection de l'hippopotame.
Oui.
Est-ce qu'ils ont été entendus ?
Absolument pas. Ils n'ont pas du tout été entendus, et à cause en particulier de l'Union européenne. C'est-à-dire que les 27 pays membres se sont opposés à cette proposition. Alors au départ, c'était une proposition inscription en annexe 1, voyant donc interdiction du commerce, voyant que ça n'avait aucune chance de passer, les pays d'Afrique de l'Ouest et centrale ont rétréci leur ambition et demandaient une annexe 2 avec un quota zéro, ce qui revenait à peu près à pareil. Et même là, l'Union européenne s'y est opposée. Au sein de l'Union européenne, on sait que la France était pour, quelques-uns aussi, mais il y a un rôle extrêmement... Déjà, il y a eu un manque d'implication politique, y compris de la France. C'est resté une envie d'annexe 1, mais qui est restée au niveau technique. Et il n'y a pas eu de soutien du gouvernement ou autre pour convaincre d'autres pays. Et puis, il y a un rôle de la Commission Commission européenne, qui est extrêmement critiquable et qui pose des gros problèmes en termes de démocratie, qui a, alors que la France avait quand même un peu réussi à glaner quelques alliés, a réussi à faire changer d'avis le bloc européen, qui donc s'est opposé à cette proposition.
Mais pourquoi ? Quel est l'intérêt de l'Union européenne de ne pas s'opposer au commerce de l'hippopotame ?
Surtout que l'Union européenne est un des principaux importateurs de dents et de défenses d'hippopotame, qui est un substitut à l'ivoire d'éléphant. C'est pour ça que l'hippopotame est dans cette situation, et le Mali l'a bien souligné. Écoutez, il faudrait leur demander, il n'est pas très clair. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont été vraiment sous influence du WWF, qui était aussi contre cette proposition. Et les arguments qui sont avancés par à la fois le WWF et l'Union européenne, c'est de dire la principale menace qui pèse sur les hippopotames, c'est la destruction de son habitat, c'est la chasse pour la viande de brousse, donc la viande d'animaux sauvages, c'est les conflits hippopotames-humains, et c'est pas le trafic international. Or, je veux dire, c'est une accumulation de toutes ces menaces qui fait que l'hippopotame est,
oui,
est gravement menacé.
Tout ce que l'on peut protéger doit l'être.
Et la CITES a sa vocation unique, c'est le commerce international. Donc on a un outil qui fonctionne pour cette menace-là. Il faut absolument l'actionner et le faire agir, quoi, cet outil. Et ça n'a pas marché. Et les pays Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, à l'exclusion notable de la République démocratique du Congo, qui se désolidarisent de ce bloc pourtant bien homogène, en ont marre. En ont marre parce qu'ils le voient pour les hippopotames, ils le voient aussi pour leur demande d'annexe 1 de toutes les populations d'éléphants, où là encore, ils ne sont absolument pas entendus, ils sont contrés par l'Union européenne, et à tel point que au milieu de la Convention, ce bloc de pays a dit, puisque c'en est ainsi, qu'on nous oppose un double discours, parce que l'Union européenne, pour ses propositions, a une interprétation de la Convention beaucoup plus honnête. Ils ont dit, écoutez, là, il y a une proposition pour le dragon d'Auvergne qui vit en Asie, d'inscription d'annexe 2 de l'Union européenne et du Vietnam. Puisqu'il en est ainsi, nous, on va s'opposer à cette proposition. Alors, ils savaient très bien que la proposition allait passer quand même, donc c'était pas le dragon d'Auvergne n'avait aucune chance de pâtir de cette histoire. Mais quand même, ça a chauffé, et l'Union européenne s'est rendue compte que, en face, ils avaient des gens qui étaient déterminés, qui avaient des arguments à la fois techniques, juridiques, et qui éventuellement pouvaient aussi actionner des leviers politiques.
Mais enfin, en tout cas, c'est raté pour l'hippopotame.
C'est raté pour l'hippopotame, mais c'est raté aussi pour les éléphants annexe 1, ce qui là était plus attendu.
Alors, la CITES régule aussi le commerce du bois. Et là, il y a eu aussi des déceptions, notamment pour un bois qui s'appelle le pernambouc brésilien. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Le pernambouc, donc c'est le pao au Brésil. En fait, c'est un bois qui est endémique du Brésil, des forêts atlantiques. Et le Brésil proposait son inscription en annexe 1 avec une dérogation pour les instruments de musique. Parce qu'en fait, c'est un bois qui est utilisé notamment pour les archers. Et donc, sachant qu'il y a beaucoup de musiciens, d'orchestres qui voyagent avec leurs instruments, le Brésil ne voulait absolument pas que ces instruments ne puissent plus voyager, mais par contre voulait interdire à partir de maintenant les exportations de bois brut depuis le Brésil. Et là, il y a eu toute une sérénade de la part des fabricants européens, avec en arrière-plan aussi les fabricants chinois, parce que c'est là finalement que la majorité des instruments de musique à l'heure actuelle sont fabriqués, en disant perte d'un savoir-faire, etc. etc. Et alors que cet arbre remplit tous les critères d'inscription d'annexe 1, ce lobby qui fait vraiment le siège des bureaux nationaux CITES depuis plusieurs mois a eu gain de cause. Et donc, finalement, il n'y a pas eu d'inscription d'annexe 1. Il y a juste eu des recommandations pour améliorer la traçabilité de ce pernambouc et pour essayer d'avoir un état des stocks. Mais tout ça, c'est des invitations. Il n'y a rien de coercitif.
Mais 150 nouvelles espèces d'arbres ont quand même été protégées.
Absolument, absolument. Mmh. Et ça, c'est une grande victoire, notamment l'ipé, donc qui est aussi un arbre du bassin amazonien, le doucier aussi africain, pareil utilisé pour là c'est plutôt de l'ameublement, des objets, des menuiseries intérieures. Et donc c'est des arbres qui sont vraiment qui font l'objet d'un volume commercial important. Et c'est une grande avancée de les voir enfin encadré par la CITES.
La faune marine est aussi protégée par la CITES, enfin plus ou moins, nous allons y revenir. Mais je vous propose tout d'abord une petite promenade dans le zoo de Vincennes, près de Paris, avec Benabar.
Le rhinocéros du zoo de Vincennes, sa peau, une écorce qui craquelle, il traîne. Licorne monstrueuse aux paupières de terre glaise, mastodonte de peine sans espoir de remise. Vieillard, un enclos de béton vieux, vieille gloire. Un hospice de banlieue, à l'étroit piégé, dans le zoo de Vincennes, une baleine noyée, dans les eaux de la Seine, quel chagrin, quel triste monde, où la savane se fane à l'ombre, la fausse montagne du zoo de Vincennes, dans ce minable safari domestique, où même le roi de la jungle abdique, loin de la savane et des vastes plaines, le lion est un vieux beau abedène, crinière en calvitie, derrière son grillage, il ne tourne même plus comme un lion en cage. À quoi bon encore jouer les bêtes féroces quand on ne fait même plus peur aux gosses? Quel chagrin, quel triste monde, où la savane se fane à l'ombre, la fausse montagne du zoo de Vincennes, sous la volière des rapaces résignés, regardant l'air sans plus rien espérer. À côté les simagrées, des singes sans gêne, et un petit train que les enfants dédaignent, un couple d'éléphants piétine d'ennui aux défenses d'ivoire. Inutile éternue, pour essayer d'atténuer la déprime qui les gagne, faudrait un Lexomil gros comme un pain de campagne. Quel chagrin, quel triste monde, où la savane se fane à l'ombre, la fausse montagne du zoo de Vincennes. Est-ce que chez eux, les enfants d'Afrique vont visiter des parcs zoologiques pour voir enfermer des bêtes qui viennent de loin, des chats, des pigeons, des orodateurs ou des chiens? Le zoo de Vincennes, sinistre, fête foraine, arche de Noé, de banlieue parisienne, curieuse ménagerie, triste et funèbre, où les animaux s'emmerdent. Quel chagrin.
Le zoo de Vincennes, une triste balade, triste avec Benabar dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Charlotte Nittard, porte-parole de l'association Robin des Bois, est notre invitée aujourd'hui. Charlotte, vous revenez de Panama City, en Amérique centrale, où vient de se dérouler la 19e conférence de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, la CITES. Alors, je vous propose de vous raconter une belle histoire. On en a besoin. On a bien entendu que tout ne s'était pas forcément extrêmement bien passé au Panama. Donc, on va se raconter une belle histoire qui prouve que les mentalités tout de même évoluent. Et pour cela, nous sommes en ligne avec Olivier Brunel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le responsable de l'équipe des soigneurs de l'Institut océanographique de Monaco. Alors, c'est en 2012 que le président malien Amadou Toumani Touré a offert au prince Albert des tortues sillonnées. Ce sont les plus grosses tortues terrestres qui peuvent peser plus de 100 kilos. Elles sont inscrites sur la liste rouge de l'UICN dans la catégorie vulnérable. Et depuis, eh bien, elles se sont reproduites.
Alors effectivement, on a reçu 7 tortues en 2012 suite à un voyage du prince souverain au Mali. Et ces 7 tortues en fait ont été confiées au musée océanographique. Donc on a aménagé une zone vraiment dédiée à ces animaux-là pour pouvoir les présenter au public et sensibiliser le public aux menaces en fait qui pèsent sur ces tortues et à leur nécessaire protection. Et il se trouve que ces tortues se sont particulièrement bien adaptées chez nous et se sont donc effectivement multipliées. Donc aujourd'hui, on a 49 juvéniles de tortues sillonnées qui sont nés au musée, dont 46 vont partir au Sénégal le 10 décembre prochain dans le cadre d'un programme de renforcement de population que l'on a monté avec une ONG locale.
Vous avez essayé une réintroduction au Mali, mais c'était compliqué.
Oui, alors évidemment, on aurait préféré initialement, en tout cas, faire ça au Mali parce que les tortues étaient originaires du Mali, parce qu'on a des liens avec ce pays depuis le don qui a été fait de ces tortues. Malheureusement, la situation politique, diplomatique et sécuritaire actuellement là-bas nous empêche de faire cette opération. Donc c'est vrai qu'on avait monté un programme qu'on a été obligé d'annuler et de remonter avec des partenaires sénégalais cette fois-ci.
Avec l'association Nature Tropicale, alors c'est un programme qui va s'étaler sur 3 ans. Quand est-ce que les tortues vont-elles prendre l'avion ?
Alors effectivement, c'est un programme qui va durer 3 ans et plus, hein, évidemment, on espère, plus sur du long terme. Les tortues prennent l'avion le lundi 12 décembre. En fait, elles vont être conditionnées ici au musée le samedi 10, dans des caisses en bois spécialement conçues pour leur transport. Elles vont partir par la route jusqu'à Paris, rester 2 jours à Paris et prendre l'avion direction Dakar lundi 12. Une équipe du musée sera sur place et elles seront réceptionnées par nos partenaires le lundi 12 au soir. Et donc remises au village des tortues qui se situe à No Fly, pas très loin de Dakar.
Donc ça, c'est pour une période d'observation de 6 mois, voir si elles s'adaptent bien au climat. Mais l'objectif, comme vous le disiez, c'est de renforcer des populations dans un milieu beaucoup plus sauvage.
Oui, tout à fait. En fait, elles vont rester pendant 6 mois au village des tortues, donc vraiment pour être observées, pour qu'elles s'habituent à leur nouvel environnement, parce que évidemment c'est très différent entre l'espace qu'elles occupent aujourd'hui à Monaco et l'espace dans lequel elles vont être accueillies là-bas. Donc pendant 6 mois dans une zone vraiment protégée et contrôlée au village des tortues. Et ensuite l'idée c'est que pendant 1 an elles puissent aller dans une zone clôturée de la réserve qui est gérée par cette association. Et ensuite au bout d'un an dans cette zone clôturée, vraiment retrouver le milieu naturel. Et être livrées à elles-mêmes, on va dire, dans la nature. Et donc, une fois qu'elles seront introduites dans la réserve, elles seront l'objet d'un suivi, en fait, qui sera mené par des biologistes sur place pour vérifier aussi qu'elles s'adaptent bien et vérifier l'impact qu'a ce renforcement sur la population locale qui existe déjà là-bas. En fait, il faut savoir que ce programme, on l'espère en tout cas, aura un vrai impact sur la population locale qui aujourd'hui est estimée à 18 individus dans la réserve. Donc c'est vraiment très faible et à peu près 150 individus sur tout le territoire sénégalais. Donc en fait, il y a un vrai besoin urgent de renforcer la population parce qu'il y a des menaces qui pèsent sur ces tortues et que sans introduction d'animaux de l'extérieur, en fait, la crainte des Sénégalais, c'est que les tortues locales finissent par disparaître.
Mais est-ce que vous avez prévu aussi un programme de sensibilisation des humains ?
Tout à fait. Alors, c'est en partie pour ça que l'on a choisi ce partenaire. Parce qu'en fait, ils sont vraiment habitués à travailler avec les populations locales, à la fois les adultes, mais je dirais peut-être principalement les enfants. Le village des tortues accueille très très régulièrement des classes et des enfants pour les sensibiliser à la présence de ces tortues et pouvoir justement leur expliquer les enjeux et comment les protéger. Donc oui, ça fait partie pour nous des critères essentiels. C'est vrai que nous, c'est notre métier au quotidien de sensibiliser le grand public et notamment les enfants. C'est pour ça que le partenariat aussi a bien fonctionné, parce qu'on sait que ça fait partie de leur spécialité et de leurs compétences également.
Merci Olivier Brunel.
Mais je vous en prie, merci à vous. Bonne journée.
Charlotte Nittard, comment est-ce que vous réagissez à cette histoire ?
Écoutez, oui, c'est une belle histoire. Il va falloir que vous retourniez sur place au Sénégal pour voir dans 6 mois comment se passe la libération dans la nature et puis qu'on en prenne des nouvelles dans quelques années. Ça me fait penser que, déjà, c'est quand même un changement de mentalité, effectivement. Et il faut que les présidents du monde entier arrêtent de s'offrir mutuellement des animaux sauvages, qu'ils soient vivants ou morts. Mais ça me fait penser aussi que c'est extrêmement difficile quand on a des saisies, notamment en France, d'animaux vivants, de les rapatrier dans leur pays d'origine pour des raisons sanitaires, des raisons d'accord justement entre les différents pays. Et c'est un gros problème. C'est-à-dire que ça fait qu'il y a beaucoup d'animaux vivants qui finissent dans des refuges, des zoos qui sont saturés. Puis le zoo, c'est pas une solution. Et alors que quand un animal a été capturé peu de temps avant, une remise en liberté est envisageable. Quand il se passe plusieurs mois ou que c'est des juvéniles, c'est mort, c'est pas possible parce qu'ils ont plus leurs réflexes alimentaires, protection vis-à-vis des prédateurs, etc. Mais donc là, ça montre que Monaco a réussi à lever ses obstacles sanitaires et diplomatiques et administratifs, donc pourvu qu'il y ait d'autres espèces qui puissent en bénéficier.
Oui, surtout que les tortues font partie des espèces très menacées.
Absolument, menacées. Alors à la fois pour l'alimentation, parce qu'il y a quand même un certain nombre de pays où on les mange, mais aussi de plus en plus pour les animaux de compagnie. Et les tortues se défendent pas, alors sauf les tortues serpentines qui peuvent un peu attaquer, qui attaquent. Elles sont faciles à ramasser, c'est un peu comme des pierres. Sont vraiment, ne crient pas, ne pleurent pas, et parfois peuvent atteindre des prix colossaux, du 1000 euros par exemple pour la cachouca à front jaune, qui maintenant est en annexe 1 depuis cette CITES. Et donc il y a un fort trafic, en particulier donc de l'Asie vers d'autres pays asiatiques, donc Chine, Thaïlande, Cambodge, Laos, etc. Mais aussi depuis les États-Unis vers l'Asie, mais aussi de l'Afrique vers le monde entier. Et l'Europe est un gros marché pour tous les reptiles et notamment les tortues, et en particulier l'Allemagne, où il y a vraiment des plateformes et des foires internationales qui se tiennent plusieurs fois par an à Hamm, où là, vous avez la biodiversité du monde entier qui est à vendre, quand bien même la chasse ou la capture dans les pays d'origine est interdite. Une fois que ça a passé la frontière, si c'est pas protégé par la CITES, c'est pas protégé au niveau européen, donc c'est légal de les vendre, ce qui est une aberration.
Ça donne envie d'aller faire un petit reportage à Hamm.
Ah, il faut absolument, je vous encourage.
Alors, vous parliez de l'annexe 1 de la CITES, hein, ça veut dire à partir du moment où une espèce y est inscrite que son commerce est interdit. Alors, côté marin, il y a eu des bonnes nouvelles hein, à cette conférence concernant les requins. Il y en a bien besoin, puisque selon une étude publiée récemment dans la revue Science, le nombre de requins a baissé de 71% au cours des 50 dernières années.
Oui, alors il y a les requins requiem, donc c'est 35 espèces à peu près, c'est le requin gris, le requin de récif, le requin bleu notamment, pour parler des plus connus, qui rentrent en annexe 2, plus...
Alors annexe 2, on rappelle,
contrôle du commerce, contrôle du commerce international, donc c'est pas une interdiction, c'est un contrôle de manière à avoir des permis d'exportation, des permis d'importation, vérifier la légalité, que ça provient pas de pêche illégale, non déclarée, etc. Donc c'est un contrôle beaucoup plus strict des transactions pour s'assurer que c'est pas du pillage.
Le problème des requins, ce sont les ailerons.
C'est les ailerons, jusqu'à 1000 dollars, donc 1000 euros, on va dire, le kilo, en particulier pour faire de la soupe.
En Asie,
absolument, mais dans toutes les communautés asiatiques du monde entier, donc c'est aussi en Europe, aux États-Unis par exemple, ou au Canada. Et les requins marteaux aussi, toutes les espèces de requins marteaux sont maintenant en annexe 2. Avant, il n'y avait que 3 espèces qui étaient en annexe 2. Et là, comme souvent sur la pêche ou d'autres captures, ce qu'on voit, c'est des effets reports. C'est-à-dire qu'il y avait 3 espèces de requins marteaux protégées et celles avec les ailerons les plus grands, donc les plus prisées pour faire cette soupe. Et vu qu'elles étaient maintenant contrôlées, du coup, les pêcheurs se sont reportés vers d'autres espèces avec des ailerons plus petits. Et du coup, la communauté internationale a décidé de mettre tout le monde en annexe 2 pour qu'il n'y ait pas de différenciation et pas d'effet de report. Parce qu'aussi, quand vous avez un groupe d'espèces ou une espèce qui est classée dans une annexe et qu'un autre groupe est classé dans une autre annexe, les contrebandiers en profitent, ils vous déclarent du grand requin marteau comme étant d'un requin marteau non protégé, et ça leur évite de passer à travers le contrôle des organismes étatiques ou internationaux.
Donc 100 espèces de requins nouvellement protégées, ça c'est une bonne nouvelle. Les raies aussi ?
Absolument, les raies. Alors les raies, il y a les raies guitares qui elles aussi sont pêchées pour leurs ailerons, en fait en substitut.
Les raies guitares, ça ressemble à quoi une raie guitare ?
Comment vous faire une description ? Non, je vais pas pouvoir. C'est un requin plat, comment vous dire ?
C'est très grand ?
Oui, c'est grand, tout ça c'est grand, hein. C'est des grands animaux. Et puis dans les raies aussi, ça c'est une grande satisfaction, il y a des raies d'eau douce endémiques du bassin de l'Amazone qui font leur entrée aux annexes de la CITES et qui sont des raies tachetées et donc qui se vendent très cher, jusqu'à 1000 euros aussi l'animal, pour finir dans des aquariums. De même que le plécozèbre rentre aux annexes de la CITES,
c'est un tout petit poisson
qui vit aussi au Brésil, uniquement dans un sous-affluent de l'Amazone, qui est rayé, comme son nom l'indique, blanc et noir, et qui lui aussi finit dans des aquariums.
Donc on l'entend bien, quand il y a des intérêts économiques en jeu, la préservation de la biodiversité n'est pas toujours la priorité. Et la preuve avec les contournements de quotas de pêche autorisés pour la France au large des côtes africaines. Nous en parlons dans un instant avec Frédéric Lemanac de l'association Bloom. Groupe The Wings dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent.
On a des modèles qui montrent, par exemple, que des pans entiers de l'Amazonie pourraient basculer en savane dans les décennies qui viennent avec le changement climatique. En fait, ces seuils, ce qu'on appelle des points de basculement, on peut imaginer un petit empilement de pièces. On en empile toujours une de plus dessus et puis en fait elle commence un petit peu à être sur le côté et chaque pièce nouvelle qu'on va rajouter n'est pas un changement fondamental par rapport à ce qu'on avait avant. Mais au bout d'un moment, on va rajouter une seule, pas plus que d'habitude, une seule, et tout va s'effondrer.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Et ça, c'est un point de basculement qui fait qu'on va arriver dans un système qui est complètement différent de celui d'avant et on ne peut pas revenir en arrière.
Pour nous écrire, c'est pas du vent. @rfi.fr.
Nous parlons de la protection de la biodiversité aujourd'hui avec nos deux invités, Charlotte Nittard, porte-parole de l'association Robin des Bois, et Frédéric Lemanac qui nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur scientifique de l'association Bloom qui est engagée dans la protection de la faune marine. Alors vous avez alerté récemment l'association de lutte contre la corruption Anticor qui a saisi le parquet financier pour un cas de transfuge. Alors là aussi, c'est une belle histoire. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ?
Oui, en fait, en quelques mots, la France est actuellement sous le coup d'une procédure d'infraction qui a été ouverte par la Commission européenne par rapport à des activités qui sont jugées illégales de sa flotte thonnière en Afrique de l'Est, notamment dans l'océan Indien. Et en fait, la personne qui connaissait le mieux ce dossier, qui travaillait à l'administration française, s'est retrouvé mis à disposition par le gouvernement français, détaché pendant un an au sein du plus gros lobby de pêche industrielle européenne pour s'occuper de la pêche thonnière, notamment française et espagnole, dans l'océan Indien. Et donc, on est dans une situation complètement démente où la personne de l'administration qui vraiment avait la charge de tous ces dossiers-là...
Alors, on peut dire son nom parce que son nom est dans la presse. Oui, elle s'appelle Anne-France Mattei et elle était en effet, entre 2016 et 2020, adjointe au chef du bureau de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture française. Et ensuite, elle a été vice-présidente et présidente du comité d'application de la commission des thons de l'océan Indien. Elle avait donc la responsabilité des accords de pêche entre la France et l'Afrique. Et en avril, donc, elle a quitté ses fonctions pour devenir chargée de la stratégie thonnière d'Europêche, qui est le principal lobby des entreprises de pêche en Europe.
Exactement, et sa mission, en fait, elle est limpide. Alors, elle n'est pas écrite noir sur blanc, mais en tout cas, on le voit très bien dans ses prises de position et dans les demandes d'Europêche, donc ce lobby européen, et aussi dans les demandes portées par la France au niveau de l'Union européenne. C'est que la situation d'illégalité la plus totale de la flotte thonnière actuelle doit devenir le nouveau cadre de loi pour éviter à la France d'être condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne.
Alors pourquoi la France est dans l'illégalité ? Est-ce qu'on peut expliquer ça simplement ?
La France est dans l'illégalité parce qu'il existe un règlement de contrôle depuis 2009 en Europe qui impose un certain nombre de mesures de contrôle, de déclaration des captures pour tous les pêcheurs européens, y compris ceux qui pêchent en Afrique. Et la France a créé une circulaire en 2015 pour exempter ces pêcheurs thoniers de cette obligation européenne. Et donc forcément, ça n'a pas plu à la Commission européenne, qui a eu vent de cette circulaire illégale et qui a menacé la France d'aller à la Cour de justice de l'Union européenne pour que la France mette en œuvre le règlement européen.
Mais pendant ce temps-là, la France a été exemptée pendant 7 ans, finalement.
Alors,
ces quotas,
les pêcheurs
parce qu'on
français,
est en 2022 et vous parlez d'une circulaire en 2015.
Exactement. Et donc, on sait que, en fait, la France a complètement délégué sa propre gestion à ses flottes de pêche thonnière. Donc, les pêcheurs thoniers français dans l'océan Indien font ce qu'ils veulent. Et c'est vrai aussi en Afrique de l'Ouest. Ils s'autorégulent. Bien évidemment, c'est contraire aux règlements européens qui obligent quand même les gouvernements européens à contrôler les activités de leurs industriels. Et donc, on est dans une situation où, effectivement, la France a délégué sa gestion au secteur de la pêche. Forcément, les pêcheurs font n'importe quoi, puisqu'ils ont des bateaux qui sont tellement grands et tellement efficaces. On parle de bateaux qui font 90 mètres de long, hein, qui pêchent des centaines de milliers de kilos par mois de poissons.
Avec une technique ravageuse.
Avec des techniques qui sont extrêmement néfastes, puisqu'en fait, ils utilisent ce qu'on appelle des dispositifs de concentration du poisson. Et donc, ce sont des radeaux flottants qui sont lâchés par centaines par chaque bateau et qui vont en fait attirer des juvéniles, des espèces non ciblées de requins, de tortues, de poissons, autres, etc. Et donc, on a des captures qui sont gigantesques, qui ne sont pas du tout sélectives, puisqu'on a énormément de captures non ciblées et de juvéniles. Et donc, on a une méthode de pêche qui ne peut pas, en fait, rentrer dans le cadre légal européen. Et c'est ça le problème, en fait, c'est que la pêche française et espagnole est tellement peu sélective et tellement efficace qu'ils ne peuvent pas respecter le règlement européen. Donc forcément, ils essaient de changer le cadre européen puisque pour que ce qu'ils font d'illégal actuellement devienne la nouvelle loi.
Alors, Anne-France Mattei, pour revenir au cas de transfuge que vous dénoncez, hein, son transfuge dans le privé a été validé par la commission de déontologie du ministère des Armées. Un arrêté a acté son départ à partir du 1er avril 2022 et la procédure a été suivie et respectée. La commission a rendu un avis favorable, indique le ministère de la Mer. La commission de déontologie estime d'ailleurs qu'Europêche assume des missions d'intérêt général. Et vous, vous dites que c'est le lobby de la pêche.
Et là, on arrive dans une situation qui est complètement ubuesque, où effectivement, maintenant, des associations d'entreprises privées qui exploitent un bien commun avec de l'argent public pour des bénéfices privés correspondent à de l'intérêt général selon le gouvernement. On a d'ailleurs Hervé Berville, hein, le secrétaire d'État chargé de la mer, qui l'a dit lors d'une session de questions au gouvernement. Il a dit, mais de toute façon, Europêche, donc cette association d'entreprises de pêche qui représente les plus gros industriels au niveau européen, c'est de l'intérêt général. Et donc, nous, on est tombés de notre chaise quand on a entendu ça, puisqu'évidemment, c'est un lobby. Ils bossent pour leurs pommes. Ils sont là pour augmenter leurs marges, pour augmenter leurs profits, et certainement pas pour préserver la biodiversité ou pour l'intérêt général des pays d'Afrique ou des pays d'Europe.
Oui, parce qu'au passage, ce sont les thons pêchés au large des côtes africaines donc c'est la biodiversité africaine qui est pillée.
Bien sûr, là on parle de bateaux qui n'opèrent pas du tout dans les eaux métropolitaines françaises ou espagnoles. On parle de bateaux qui vont pêcher aux Seychelles, à Madagascar, aux Comores, en Somalie, au Kenya, au Sénégal, etc.
Dans le cadre d'accords de pêche, aussi, ouais.
dans le golfe de Guinée. Alors le golfe de Guinée, c'est moins important en termes de capture thonnière par rapport à l'océan Indien. Mais donc, ce sont des bateaux. Les plus gros bateaux de pêche européens vont tous pêcher en Afrique, que ce soit à l'ouest ou à l'est, dans le cadre d'accords de pêche qui sont financés à l'aide de dizaines de millions d'euros chaque année par l'argent du contribuable. Et donc, effectivement, on est en droit de demander que les règlements soient contraignants, soient respectés et servent aussi à protéger la biodiversité locale et les populations locales.
Mais donc ces accords de pêche garantissent des quotas de pêche et vous dénoncez le fait que la France ne respecte pas ces quotas. Et donc quel est l'agenda ?
Alors l'agenda aujourd'hui, il arrive quasiment au bout. En fait, le point de contentieux entre la France et la Commission européenne est vraiment un des derniers points de blocage d'un règlement qu'on appelle le règlement de contrôle, qui est beaucoup plus général que cette simple marge de tolérance, hein, pour donner le terme technique, sur les déclarations de capture. Puisqu'en fait, on va aussi parler de surveillance des bateaux avec des caméras embarquées, des observateurs, etc., etc. Donc c'est très très large et ça s'applique à tous les pêcheurs européens. Et donc là, on est dans les derniers moments de négociation entre le Parlement européen qui a voté sa position en session plénière avec les élus du Parlement et entre les États membres qui sont regroupés au sein de ce qu'on appelle le Conseil de l'Union européenne. Et donc ces deux législateurs, on a deux co-législateurs en Europe, ce qui rend les choses un peu compliquées, doivent trouver une position commune pour que le nouveau règlement soit acté. Et donc là, on est vraiment dans les dernières phases de négociation. Ce ne sera pas avant la fin de l'année, ce qui est plutôt une bonne chose pour nous, puisque la position actuelle des États membres est la position française, et la position française est la position des industriels français, qui est en fait de demander la légitimation de ce qui était illégal dans le passé, et qui l'est toujours. Et donc on a une position des États membres de l'Union européenne qui est catastrophique pour l'environnement marin, pour les populations côtières d'Afrique, pour les finances européennes et les pays d'Afrique. Et donc on a besoin de faire bouger cette position-là, et on aura l'opportunité de le faire en 2023, puisque la présidence du Conseil de l'Union européenne change, et ça passe à la Suède, qui est quand même beaucoup plus proche de nos demandes environnementales que la France.
Et alors comment est-ce que vous vous mobilisez ?
Alors, on se mobilise de plusieurs façons. En fait, on a sorti, nous, un dossier il y a maintenant une quinzaine de jours sur ce cas de transfuge pour expliquer quels étaient les enjeux en termes de biodiversité, en termes de finances publiques, en termes de démocratie. Et donc, on a saisi le parquet financier pour demander une enquête sur ce cas de transfuge. Puisqu'en fait, on doit avoir quand même des décisions qui sont prises par rapport à ça. C'est totalement illogique et inacceptable d'avoir cette personne-là qui bosse pour une durée d'un an au sein du lobby, puis qu'elle rejoigne ensuite l'administration française. Puisque
c'est normalement,
quand même ce qui est prévu.
Il y a 3 ans minimum pour passer d'un poste dans l'administration publique à un poste dans le privé qui est des intérêts communs.
Exactement. Et donc là, on n'est pas du tout ni dans un sens ni dans l'autre. Quand elle revient, on sera dans tous les cas jamais dans le cadre de ces 3 ans-là. Donc on a un problème là-dessus. Et nous, on a demandé en parallèle l'abrogation de la circulaire qui est contestée par la Commission européenne, qui date de 2015, et pour laquelle la France risque d'aller à la Cour de justice de l'Union européenne. Donc on a toute une série de demandes aussi de transparence sur le lien qui existe entre Anne-France Matelet au sein d'Europêche et son administration de tutelle. Quels sont les rapports qui sont donnés, quel a été l'ordre de mission. On a des demandes aussi sur la transparence des activités de pêche française et espagnole dans l'océan Indien. Donc on a vraiment décliné toute une série de demandes qu'on portera en justice s'il le faut.
Voilà, et votre dossier est à lire sur votre site bloom.fr. Charlotte Nittard, vous qui revenez de Panama City, où il y a eu donc cette conférence de la CITES pour réguler le commerce des espèces menacées, comment est-ce que vous réagissez à ce que vient de dire Frédéric ?
Ça a plein de conséquences. C'est-à-dire qu'un des cadres qui fait que les échanges internationaux, les négociations internationales peuvent fonctionner, c'est en principe, en tout cas c'est écrit dans le traité de Vienne, le principe de bonne foi. Là, il y a un règlement qui est clair et que la France n'applique pas, applique avec de travers, de mauvaise foi, en tirant ses intérêts, les intérêts économiques de sa filière pêche, au lieu effectivement de penser à l'intérêt général et tout simplement d'appliquer les textes tels qu'ils ont été décidés en coopération avec la communauté internationale. En plus de ça, tout est bâti par rapport à ces quotas et au contrôle de ces quotas, avec des avis scientifiques au départ, tout le mécanisme de gestion justement des pêches soi-disant pour que ce soit durable, etc., est bâti sur des études scientifiques, des quotas, le respect des quotas et la chasse aux braconniers et aux trafiquants. Or, si vous avez un État aussi important que la France qui se met à interpréter le texte d'une manière vraiment honteuse et que ça fout tout en l'air, quoi. Et c'est totalement inacceptable.
Alors, on se réjouissait quand même en début d'émission en disant qu'il y avait des bonnes nouvelles à la CITES. Le problème, c'est que l'ensemble de ces mesures vont prendre du temps à être effectives. C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, une scientifique interrogée par nos confrères de la rédaction espagnole expliquait sur RFI qu'il faudrait 30 ou 40 ans pour voir les effets des décisions de protection sur les requins. C'est-à-dire que les espèces, à partir du moment où on les protège, ça met du temps.
Absolument. Ça met du temps, c'est vrai, pour les requins, les concombres de mer dont on n'a pas parlé, les holothuries. Ça met du temps pour tout le monde. Mais plus on s'y prend tôt, plus ça arrivera vite. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut de la persévérance. Il faut commencer maintenant et surveiller la bonne application. Il ne faut pas se contenter de « ça y est, c'est inscrit, on passe à autre chose ». Bon, de toute façon, il faudra qu'on passe aussi à autre chose. Mais il y a l'application qui est extrêmement importante. Et on est toujours, on est des urgentistes, hein, les environnementalistes. Et c'est bien de là le problème, c'est que les États n'anticipent pas assez parce qu'ils sont aussi trop soumis au lobby, le lobby de la chasse, le lobby du trophée de chasse, le lobby de l'ivoire, le lobby du Pernambouc et l'intérêt général met du temps à s'imposer.
Alors la semaine prochaine s'ouvre à Montréal la 15e conférence des Nations Unies sur la biodiversité qui devrait définir justement les stratégies internationales de protection pour cette décennie. Rapidement, on arrive à la fin de l'émission. Qu'en attendez-vous, Frédéric Lemalac?
Alors nous, c'est très clair, pour la conférence sur la biodiversité, on attend des annonces très fortes de la France sur la protection des zones marines, puisque la France se targue de protéger plus de 30% de ses aires marines. En fait, quand on regarde dans le détail, il n'en est rien. Sur la façade atlantique et manche, on est à 0,005%. Et donc la France a une politique de chiffres, où on a mis toute notre protection forte là où il n'y a personne.
Dans les terres australes et antarctiques
françaises, du côté de l'Antarctique. Donc là-bas, c'est facile. Hein. Mais même là-bas, où on a quand même 7 bateaux, surtout les aires protégées ne sont pas là où la pêche a lieu. Et donc, c'est vraiment une politique du chiffre. Et donc, on attend maintenant une politique de protection. On a besoin d'avoir des zones strictement protégées en France, y compris en métropole, sur toutes les façades, pour vraiment protéger la biodiversité et permettre une reconstitution.
Charlotte Nittard.
Moi, je vous dis, franchement, j'attends pas grand-chose de cette nouvelle réunion. On voit de plus en plus, effectivement, de protection papier. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que les États qui sont à Montréal et la France compris, quand ils rentrent dans leur pays, aient effectivement des aires protégées qui soient pas des aires papier, qui soient des aires effectives et arrêtent d'avoir des projets polluants, que ce soit huile de palme, extraction minière ou construction de hangars ou d'hôtels en France et des dérogations à tire-larigot pour détruire des espèces protégées, il y a quand même un double discours et ça, il y en a marre, quoi.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation. Et à vous pour votre fidélité. Continuez à nous écrire. On adore vous lire par mail, c'estpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Continuez aussi à partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure.